Aujourd'hui, Lise, avec votre invité, nous allons parler des cellules d'espions israéliens au service de l'Iran qui ont été démantelées ces derniers jours, avec Raphaël Jérusalmi, ancien officier du renseignement militaire de Tsahal.
Raphaël Jérusalmi, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Donc, deux cellules qui ont été arrêtées. Une première avec sept Israéliens juifs, c'était hier. Et visiblement, des gens qui ont fait beaucoup de missions pour l'Iran, pour l'argent. C'est assez choquant, non, Raphaël Jérusalmi?
Oui, surtout, c'est juste pour de l'argent. Ce n'est pas quelque chose d'idéologique. C'est un moyen qui est utilisé, hein, payer des gens pour trahir leur pays, il y en a qui le font, et ça a été le cas cette fois-ci.
Alors, c'est vrai que ce qui est assez inquiétant, c'est que visiblement, la police israélienne disait que c'était une des affaires vraiment les plus graves, qu'ils avaient reçu des cartes de sites stratégiques de la part des Iraniens, y compris de la base de la brigade Golani, dans laquelle 4 soldats ont été tués la semaine dernière. Mais surtout, ils ont aussi été payés pour identifier des cibles humaines potentielles pour la République islamique. Donc, en fait, ça veut dire, Raphaël, que tous les citoyens israéliens, quelque part, étaient en danger avec ce genre de personnes ?
Plutôt des personnalités, parce que je crois qu'on leur a demandé de viser haut, donc de choisir une cible importante. Le dernier Israélien en date, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2-3 mois, qui a été arrêté pour tentative d'espionnage et d'assassinat au compte des Iraniens. On lui avait demandé ni plus ni moins de supprimer soit le Premier ministre, soit le chef du Sinn Féin. Évidemment, ce danger pèse sur toutes les personnalités et personnes publiques israéliennes. Mais je pense que ce qui était beaucoup plus grave, c'était justement les photos et les comptes rendus de sites militaires ou autres, surtout qu'ils ont... après la salve de 100 missiles en avril iraniens vers Israël, ils sont allés repérer les points d'impact et ont indiqué plus ou moins certains points d'impact, ce qui évidemment permettait aux Iraniens d'améliorer leur performance le jour où ils tireront une fois de plus.
Bien sûr. Et c'est vrai qu'il y avait donc parmi les principaux sites concernés beaucoup de bases aériennes de Tsahal, Nevatim, Glilot et la base des Golani dont on parlait. En fait, la police israélienne disait à quel point on voit là-dedans les efforts continue des services de renseignement iraniens pour recruter des citoyens israéliens pour faire des actes terroristes. Comment expliquer que l'Iran ait tellement de potentiel, on va dire, en Israël, Raphaël Jérusalmi?
Justement, moi, je suis plus optimiste. Je vois que, ils ont été obligés de recruter des gens sur place, donc ils n'ont pas été capables d'infiltrer des agents pour faire ce travail-là. Ils ont dû utiliser des Israéliens. C'est un petit peu rassurant. D'un autre côté, ils n'arrivent pas. Ça a été le cas d'ailleurs avec Daesh par le passé, à recruter si facilement qu'on le croirait des musulmans israéliens. Et puis le fait qu'ils aient besoin de photos d'endroits aussi connus, dirais-je, parce que c'est pas des endroits secrets. C'est-à-dire les gens savent où se trouve en Israël le quartier général de l'armée, où se trouvent les bases aériennes. Alors qu'ils aient besoin d'avoir à ce stade encore des photos et des précisions sur ces sites, ça veut dire qu'il y a un manque cruel d'informations de leur part, s'ils en sont encore à prendre des photos du quartier général de Tsahal à Tel Aviv, par exemple, ou de la centrale électrique de Hadera, qui est la plus grande centrale électrique d'Israël. Je veux dire, ce sont des endroits que vous pouvez prendre en photo de votre voiture tous les jours. Donc ici, il y a peut-être une indication comme quoi ils n'ont pas suffisamment d'informations, justement.
Oui. Alors, c'est vrai que de manière générale, et ce matin, une autre cellule au service de l'Iran a été démantelée, c'est des Arabes de Jérusalem. C'est plus classique, on va dire, que des Juifs de Haïfa.
Plus classique, plus facile d'abord d'accès, d'abord, et puis plus compréhensible si ce sont des Arabes de Jérusalem-Est ou... il peut y avoir un motif idéologique, religieux, que sais-je encore. Mais dans l'ensemble, c'est l'argent qui parle. Dans les cas précédents d'Israéliens, qu'ils soient musulmans ou juifs, peu importe, c'est l'argent qui a primé comme motif, donc pas l'idéologie, pas la religion. C'était bien pour du fric.
Ben oui. Je voulais qu'on revienne avec vous, Rafael Jérusalemi, maintenant sur cette opération de Tsahal dans le bunker financier de Hassan Nasrallah. Un demi-milliard de dollars en espèces et de l'or. Est-ce que c'est vraiment l'endroit central où le Hezbollah cachait son trésor?
Non, non, pas du tout, c'est juste une partie. On a vu qu'il y avait les fausses banques et les fausses organes caritatifs. Il y a plein d'autres endroits où l'argent est blanchi. Là, c'était le besoin de liquide, hein. Donc l'argent cash pour les activités mafieuses du Hezbollah avant qu'il soit blanchi. Et il y a à l'étranger aussi. Donc le Hezbollah a des comptes et des intérêts financiers à l'étranger, souvent dégérés par la diaspora libanaise chiite. Et donc ce n'est que le bout de l'iceberg. On parle de budget énorme aux mains de ces terroristes.
Oui. Mais c'est tout de même significatif d'avoir démantelé ce bunker, non?
Oui, bah, de toute façon, on comprend bien que, un, il s'agit d'une activité mafieuse, puisqu'il s'agit d'énormes sommes qui n'étaient pas encore blanchies, en tous les cas, et de sommes importantes. Deux, il s'agit aussi de comprendre que, comme pour le Hamas et les autres factions terroristes, les chefs se gardent la grosse part du gâteau. Là aussi, hein, c'est fric, fric, fric. La moitié des combattants de la force Radouane du Hezbollah font ça pour de l'argent. Aujourd'hui, ce sont les seules personnes, je pense, au Liban, qui touchaient, parce que ça fait un bout de temps qu'ils non, mais qui touchaient un salaire assez important par rapport à leur qualification. Leur seule qualification, c'est d'être des soldats, en fin de compte. Ils sont extrêmement payés par rapport à tous les autres Libanais qui sont aujourd'hui dans la misère. Et donc, ils se sont des mercenaires, et je peux vous garantir qu'ils travaillent pour le plus offrant, et que beaucoup d'entre eux n'ont aucune motivation idéologique. C'est tout simplement un boulot.
Et en plus, il les payait en dollars, ce qui leur évitait la crise économique au Liban. Justement, Rafael Jérusalemi, est-ce qu'on peut imaginer, quand on voit ce genre de choses, que les Libanais se soulèvent un peu contre le Hezbollah, se disent, voilà, nous, on est en train de mourir de faim et ces gens-là ont un demi-milliard de dollars en liquide et de l'or et ils nous laissent crever?
Malheureusement, on ne constate pas une sorte de courage de ce côté-là, de la rue arabe en général. Si vous regardez la rue perse, l'Iran, il y a là un courage beaucoup plus grand, avec des manifestations qui ont été réprimées très très durement. Les gens ont été arrêtés, torturés, exécutés, et les Iraniens continuent de se battre contre le régime des ayatollahs. Au Liban, à Gaza, on voit une sorte de passivité. Les gens souffrent, oui, se soulever, pas vraiment. Et c'est bien regrettable. Donc, car c'est aujourd'hui, effectivement, tant à Gaza qu'au Liban, l'occasion pour la population normale de reprendre les rênes de son destin, de se débarrasser de cette férule terroriste. Malheureusement, on ne les voit pas véritablement le faire. C'est vrai que c'est très très difficile, bien sûr, face à ces factions armées violentes. On sait que à Gaza, dès que vous dites un mot contre le Hamas, vous serez tabassé à mort dans la rue, hein, devant tout le monde. Au Liban, vous serez probablement exécuté à la mitrailleuse par un membre du Hezbollah. C'est pas tellement facile, hein, c'est facile à dire et pas facile à faire, ce soulèvement, mais il faut l'encourager. Au Liban, c'est plus compliqué à cause de la mosaïque ethnique qui peut en fait dégénérer donc en une guerre civile où tout le monde se tirait les uns sur les autres, puisqu'il y a beaucoup d'ethnies, de groupes tribaux qui sont en fait en opposition les uns avec les autres.
Ce sera ma dernière question, Raphaël Jérusalemi. Justement, vous parliez de cette difficulté de se rebellés. On voyait ce matin dans les médias israéliens que le Hamas tirait sur les civils qui tentent en ce moment même d'évacuer Jabalia, alors qu'il y a une importante opération de l'armée israélienne. Comment expliquer, Raphaël, que l'Occident ne voit pas ce genre de choses comme on peut le voir nous en Israël?
L'Occident voit tout, l'Occident sait tout et ferme les yeux exprès pour des intérêts soit bassement économiques et commerciaux, des intérêts électoraux. On a quand même un président, le président Macron, en Belgique, vous êtes aussi pas mal placé pour le savoir à quel
En
point les
effet.
politiciens sont tout simplement de mauvaise foi. Ils savent très bien ce qu'il en est. Ils mentent, ils utilisent des termes génocide et autres qui incitent à la haine antisémite et on ne peut pas les soupçonner de ne pas voir ou de ne pas savoir, surtout aujourd'hui où toute l'information circule et où Israël fournit sans arrêt des documentations, des preuves de ce qu'il fait. Chaque balle qui est tirée par les soldats israéliens est documentée. On sait qui a tiré, à quelle heure elle a été tirée, sur quoi elle a été tirée, s'il y a eu bavure ou pas bavure. Et donc tout le reste, c'est mauvaise foi, et je le regrette, surtout en Belgique, mais aussi peut-être en France, de l'antisémitisme pur et dur.
Merci beaucoup, Raphaël Jérusalmy, ancien officier du renseignement militaire de Tsahal, d'avoir été avec nous. Bonne journée à vous, à très vite.
Bonne journée.